Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous allons découvrir dans un instant le tout premier extrait d'un spectacle musical consacré à l'été 44 en France, l'été de la libération. Derrière les chansons, un casting d'auteurs-compositeurs impressionnant, c'est ce que nous dira Steven Bellery. Parmi les nouveautés en librairie, Bernard Lehu a choisi « Mémoire de fille » d'Annie Ernaux. L'auteur revient, elle, sur l'été 1958, celui de ses 18 ans. Nous vous offrirons bien entendu son livre au 3210. Isabelle Huppert est une des actrices de la semaine à l'affiche mercredi du film « L'Avenir ». Stéphane Boutsock a recueilli ses dernières confidences. Et puis à la télévision, ce soir, le démarrage sur Canal+, à 21h de Section 0, la nouvelle série du réalisateur Olivier Marchal, que Laurent Marsic a déjà vue pour nous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
C'est dur cette attente, presque noire, presque froid. Et le fond qui bouge, force haut, on est tous là, assis dans la barge, M1.
Jamais la concurrence n'aura été aussi forte à la rentrée 2016. 9 spectacles musicaux, 9 vont s'affronter à Paris. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Il y a un an, vous nous aviez révélé sur RTL qu'un spectacle événement était en préparation sur l'été 1944 en France. C'est désormais officiel, Steven.
Oui, à partir du 4 novembre prochain, le théâtre Comédia à Paris va accueillir un spectacle musical inédit intitulé Un été 44, une histoire, leurs 20 ans, notre liberté, son atout majeur, l'équipe artistique. C'est du jamais vu. 15 auteurs-compositeurs ont dit oui. Tenez-vous bien, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, Alain Chamfort, Yves Dutheil ou encore Jean Faux, qu'un casting 5 étoiles pour raconter une page essentielle de l'histoire de France. Valérie Zetoun, producteur du show.
Un été 44, ça va raconter l'histoire des 3 mois qui ont changé un peu le monde moderne, qui partent du 6 juin 1944, donc qui est le début du débarquement et de la bataille de Normandie, et qui vont jusqu'au 26 août, qui est la libération de Paris. C'est une période historique que beaucoup de gens connaissent, sauf qu'il y a beaucoup d'histoires dans cette période qu'on ne connaît pas, et qu'on va découvrir à travers 23 chansons qui ont la particularité d'avoir toutes été écrites sur mesure pour le spectacle par de grands auteurs. Pourquoi ? Parce que c'est un projet au départ d'artistes. Le premier auteur-compositeur qui a eu cette idée, c'est Sylvain Lebel, qui était un des auteurs fétiches de Serge Reggiani. Et Sylvain est de Caen, donc Sylvain avait envie de rendre hommage à sa région. Et puis il a rencontré Eric Benzi, qui est un autre grand auteur-compositeur qui a beaucoup travaillé avec Céline Dion, avec Yannick Noah, etc., etc. Puis à deux, ils ont commencé à faire des chansons. Et puis ils ont appelé chacun leurs copains. Donc Benzi a appelé Jean-Jacques, Sylvain a appelé Maxime. Et au fur et à mesure, tous ces artistes se sont retrouvés autour de ce projet.
Alors cette création partira en tournée en 2017 partout en France, c'est Anthony Souchet qui signera la mise en scène. Ne vous attendez pas à un exposé d'histoire géo, un été 44 s'intéressera avant tout aux anonymes.
La guerre, elle est souvent décidée par les grands chefs, mais elle est subie par les anonymes. Les anonymes, c'est nous. C'est par ce prisme-là qu'on a décidé de raconter cette histoire, y compris chez les Allemands, car il y avait des soldats allemands qui n'étaient pas obligatoirement des nazis ou des SS, et donc c'est tous ces destins-là qu'on a envie de développer et qu'on a envie de montrer, puisqu'il y aura un soldat américain, un soldat allemand et un soldat français aussi dans le spectacle.
Alors Steven, musicalement, ça va ressembler à quoi ?
Alors j'ai écouté quelques extraits, ça sera très prometteur. 6 jeunes artistes ont été recrutés, je vous propose d'écouter un tout premier extrait, la chanson « Passer la nuit », écrite par Eric Benzi et interprétée par Tomislav Matozin.
J'ai touché la plage, j'ai pas vu Paris, l'eau sur mon visage, la rouille et le bruit. Je pense à ma mère, la ferme fleurie, je creuse la terre pour passer la nuit.
Cette chanson, on la retrouvera au début du spectacle, elle raconte le débarquement. Oui. Et on la retrouvera dans Un été 44, une histoire, leurs 20 ans, notre liberté. Le spectacle musical sera à l'affiche du théâtre Comédia à Paris à partir du 4 novembre. La billetterie ouvre aujourd'hui, les prix de 25 à 75 euros.
Merci beaucoup Steven Bellery. On va gentiment marquer une petite pause et tout de suite après, on parlera de nos audiences télévisées du week-end. Ce sera avec Laurent Marsic et après, on embarque avec Annie Ernaux et Bernard Lehu.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Les audiences télévisées que voilà, c'est pas vrai.
Elles arrivent.
Non mais c'est frais. Vous voyez, vous vivez de la radio en direct, Laurent Marsic, on est le grand spécialiste, avec nos amis de Médiamétrie qui se sont réveillés un tout petit peu plus tard ce matin.
Voilà, on va se le faire sur trois jours, hein. On va remonter un vendredi quand même, avec celle de Koh-Lanta sur TF1 à 5,9 millions, qui est et puis un très bon démarrage pour Quin aussi, la saison 4 à 4,6 millions. Samedi soir, The Voice en tête avec plus de 6 millions de téléspectateurs. 40% des FRDA, les femmes responsables des achats, les anciennes ménagères. Et puis hier
j'y
soir,
étais, moi.
Voilà. Et puis hier soir, un joli carton pour les visiteurs sur TF1. 7 200 000 téléspectateurs, 29,3% de part d'audience.
Ok.
Exactement. Ils avaient fait 5 692 000 le 14 avril 2013. Autant dire que là, c'est un joli carton
et
pour
ça
eux.
Ça veut dire qu'une grosse attente pour le 3 qui sort mercredi.
C'est une bonne augure en tout cas.
Ben, voilà, on a passé notre vendredi avec eux. C'était formidable. Bernard Lu.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Annie Ernaux est l'une de nos grandes romancières. Elle construit depuis près de 40 ans une œuvre autobiographique qui se veut le reflet de notre histoire collective. Alors on pensait qu'elle avait tout raconté de sa vie. Son nouveau livre, Mémoire de fille, prouve le contraire.
Mais oui, Annie Ernaux revient sur l'été de ses 18 ans en 1958. L'été qui aurait dû être le plus lumineux de sa vie, celui de la découverte de l'amour, et qui va tourner un moment d'humiliation puis de honte. Ce livre, Annie Ernaux tente de l'écrire depuis 20 ans parce qu'il lui a fallu d'abord combler le gouffre qui sépare la femme septuagénaire qu'elle est aujourd'hui de la jeune fille de l'été 58.
Cette fille de 18 ans que je regarde sur une photo d'identité collée sur le dossier du bac, effectivement, je ne peux pas dire que ce n'est pas moi. J'ai sa mémoire. Je peux dire en la regardant de quoi elle se souvient. Mais en même temps, c'est une étrangère, puisque tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait n'existe pas là. Quand je la regarde, c'est à venir. Donc, il est évident qu'il y a un abîme entre les deux, et c'est d'écrire avec cet abîme.
Nous n'étions pas dans une église.
Quelle est cette cathédrale que vous avez visitée avec Annie Ernaux ?
Nous étions dans un lieu mythique, la salle du comité de lecture de chez Gallimard.
Ouais, impressionnant.
Alors, Annie Ernaux fait donc alterner dans son livre le « je », la désignant aujourd'hui, avec un « L » dissocié pour la jeune femme de l'été 58. Annie Duchesne, son nom de jeune fille, est embauchée comme monitrice dans une colonie de vacances. « Comme une pouliche échappée de l'enclos », écrit-elle, elle quitte pour la première fois ses parents épiciers à Yvetot.
Elle échappe à sa mère, regarde sa mère, elle échappe à la ville d'Yvetot, elle échappe au pensionnat Saint-Michel où elle a fait toutes ses études jusqu'à la première incluse, donc la première partie de bac qui à l'époque est très importante. Et elle est quelque chose de triomphant, hein, et de vraiment, elle part avec l'idée effectivement qu'elle a l'espérance de vivre une histoire d'amour. C'est ça.
Et l'histoire d'amour va tourner au fiasco.
Oui, la jeune femme se jette dans le lit du moniteur chef H. On ne connaîtra que son initiale. Avec l'intrépidité et l'inconscience de ses 18 ans, celui à qui elle a décidé de se donner corps et âme la délaisse. Dès la nuit suivante, elle devient la risée de la colo et va passer de bras en bras, traitée de putain par le groupe. Annie Ernaux restitue avec une puissance troublante la confusion des émotions de la jeune fille. Elle peint aussi d'un trait précis une époque révolue, 10 ans avant mai 68, cet été 58, la sexualité est encore largement taboue et la virginité, un principe sacré pour les filles.
Alors, il y avait évidemment toutes les entorses possibles, et que c'était non toutes, elle n'arrivait pas vierge au mariage, mais c'était évidemment quelque chose dont qu'il fallait cacher. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette grande question ? C'est que il y a aussi la crainte d'être enceinte. Hein. Bon, on peut dire que la pilule, en premier, bien sûr, ensuite la loi sur la liberté de l'avortement, mais on modifiait du tout au tout la condition des femmes, leur liberté.
Et ce n'est que l'année suivante, cet été 58, que la honte submerge celle qui est encore Annie Duchesne. Elle lit le deuxième sexe, le manifeste féministe de Simone de Beauvoir, et elle prend conscience qu'elle s'est comportée en objet, soumise à la domination masculine. Naît alors chez elle ce besoin de mettre en mots sa vie pour la comprendre, un élan qui ne la quittera plus. Annie Duchesne, la fille de l'été 58, était la chrysalide de la romancière Annie Ernaux, la tisseuse de mémoire, ce lien vertigineux entre le passé et le présent.
Je prends la mémoire comme un moyen de connaissance, comme quelque chose qui empêche que les choses sombrent dans le néant. Parce que c'est le néant nous guette tous, et que de tout cela, il ne sera plus jamais question, je veux dire, voilà. Mais la mémoire, c'est vrai, une force, c'est une force, c'est un moyen de percer le, et de faire exister les choses. Donc, c'est sûr que je ne peux pas envier l'oubli.
Annie Ernaux publie Mémoire de fille chez Gallimard. Entretien complet d'Annie Ernaux à retrouver sur RTL.fr.
Que nous allons vous offrir bien volontiers si vous répondez à la question de Bernard Lehu.
Alors, quelle est l'année de l'été que raconte Annie Ernaux dans son roman ?
La réponse est au 32-10 et bilan des courses comme chaque jour à la fin de l'émission. Une rencontre de cinéma à présent avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Isabelle Huppert sera à l'affiche mercredi du film L'Avenir de la jeune réalisatrice Mia Hansen-Love. Huppert, autrement dit, un des piliers du cinéma français.
Ouais, toujours juste, toujours étonnante, toujours très impliquée dans ses personnages, toujours exigeante dans ses choix. La comédienne incarne cette fois une prof de philo, ancienne gauchiste, dont la vie rangée comme une bibliothèque va être chamboulée. Son mari la quitte, sa mère décède, son éditeur la vire, ses enfants la critiquent et un ancien étudiant lui dit qu'elle s'est franchement bourgeoisée. Alors, là où d'autres s'effondreraient, Nathalie, c'est le nom de ce personnage, va elle en tirer des leçons pour entamer une autre vie. Est-ce que c'est un personnage qui est proche d'Isabelle Huppert ?
Moi, j'ai pas besoin de partager. Plus ça va et plus je me dis que j'ai rien à voir au fond avec les personnages que je joue. Enfin, rien à voir. Je peux éventuellement être d'accord avec certaines choses, mais encore, c'est un personnage, c'est, voilà, c'est pas moi du tout, hein. Donc je partage pas forcément tout ça.
Voilà, les choses sont claires, ça marche comme ça, une interview avec Isabelle Huppert, les choses sont dites, c'est l'actrice qui parle, la femme reste en retrait, sauf que là, le film L'Avenir permet quand même des passerelles avec notre réalité, par exemple sur la façon dont la jeunesse dans le film regarde ses anciens cocos devenus bobos. Isabelle Huppert s'intéresse beaucoup à l'actualité et notamment à la colère des lycéens contre le projet de loi sur le travail.
Bien sûr, on peut pas ne pas s'y intéresser, hein. Le monde vient à vous d'une manière bruyante, parfois brutale, et une jeunesse qui s'exprime, c'est un monde qui avance et c'est un monde en marche, donc on ne peut pas ne pas l'écouter. Ceci étant, pour revenir au film de Mia, c'est pas que je veuille m'écarter du sujet, elle évite aussi tout cliché qui consisterait à montrer une adulte plus âgée que certains jeunes qui détiendraient forcément la vérité. Les plus jeunes ne sont pas forcément ceux qu'on croit, la plus âgée n'est pas forcément celle qu'on croit. Ça évite de tomber dans un cliché un peu facile qui consistera à dire que c'est forcément les jeunes qui ont raison face aux moins jeunes. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais dans la manière dont c'est dit, au moment où c'est dit, ils n'ont pas forcément raison de le dire comme ils le disent, en tous les cas.
Alors, on peut peut-être entendre dans tout cela une appréciation d'Isabelle Huppert sur ce que nous vivons ces derniers temps dans les rues. Revenons à la carrière de cette grande comédienne française. La liste des réalisateurs avec lesquels elle a tourné est impressionnante.
Alors, accrochez-vous. Chabrol, Sautet, Blier, Tavernier, Téchiné, Godard, Piala, Jacques, Deville, Doyon ou encore Chéreau, tout le cinéma français, ou presque, a fixé sur sa pellicule la chevelure rousse et la silhouette frêle d'Isabelle Huppert, qui mène aussi une carrière exceptionnelle au théâtre. A-t-elle conscience que ce statut à part fait d'elle une référence ?
On n'est pas tout à fait conscient de la même manière que les gens qui vous commentent ou qui vous définissent. On est à deux endroits différents, donc je n'ai pas la même conscience de, peut-être, de ce que vous décrivez. Ce qui est sûr, c'est que voilà, je tourne beaucoup de films et que ce qui m'intéresse, moi, avant tout, c'est qu'il y ait du cinéma, tout simplement. C'est qu'il y ait des cinéastes et ils peuvent avoir 20 ans ou 70 ans. C'est la même chose. Alors, ça paraît un peu une évidence, mais ça n'est pas tant que ça non plus, parce que c'est à chaque fois des pépites aussi qu'il faut trouver. C'est ce que je cherche, c'est ce que j'ai la chance de trouver aussi. D'être dans cette relation essentielle de confiance et même de croyance, et il n'y a que l'idée que le cinéma, dans ce qu'il peut avoir de plus inventif, de plus individuel, de plus inédit aussi, peut vous apporter. S'il n'y a pas ça, ça vaut moins la peine d'y aller.
Et elle y va, Isabelle Huppert, quitte parfois comme dans L'Avenir, à ne pas choisir la voie de la facilité, à ne pas jouer du confort de sa position de star en tournant dans des premiers films ou des films d'auteur, avec des conditions parfois artisanales.
Je fais tout pour que ça soit le plus confortable possible et absolument pas risqué. J'ai pas attendu les années récentes pour essayer d'aller tourner en dehors de France et pas dans une espèce de cliché qu'ont les gens aux États-Unis uniquement, mais au contraire dans le monde entier. Et le cinéma français à l'étranger représente beaucoup, beaucoup. Quand j'étais tournée avec Mendoza, par exemple, qui est un cinéaste philippin, pour lui, c'était une surprise aussi de pouvoir demander à une actrice française de venir le rejoindre, en plus sur son terrain. Hein. Je pense que c'est plus intéressant d'aller voir des gens sur leur propre terrain plutôt que de leur demander de venir chez soi.
Alors Isabelle Huppert le rappelle à l'instant, Stéphane, hein, elle est une des actrices françaises les plus demandées dans le monde.
Deux exemples dans les prochains mois, elle sera à l'affiche de Elle, le nouveau film de Paul Verhoeven, réalisateur de Basic Instinct, d'après le roman de Philippe Jean qui s'appelait O, me semble-t-il, oui. Bernard. Oui. On verra sans doute ce film-là du côté de Cannes au mois de mai. Et elle commence d'ici peu le tournage de Happy End, c'est le prochain Michael Haneke, 4 ans après Amour, Palme d'Or à Cannes, dans lequel elle retrouvera Jean-Louis Trintignant.
C'est vraiment Happy Haneke, pourtant.
Oui, c'est rarement Happy, mais c'est souvent End, par contre. C'est la première fois qu'Isabelle Huppert lève le voile sur ce projet très secret, c'est ce matin sur RTL.
Quand on est quelques semaines, comme c'est le cas, avant le tournage d'un film, c'est très difficile d'en parler. On est un peu encore dans les limbes, c'est un peu comme avant la création du monde, peut-être les traits ne sont pas encore bien dessinés, c'est comme un enfant qui ne serait pas encore né, justement. Donc c'est vraiment difficile d'en parler. Après, d'une manière à la fois complètement théorique et véritable, en même temps, c'est la perspective de retourner avec Michael Haneke, ça sera mon 4e film avec lui. La perspective de retourner avec Jean-Louis, ça sera mon 3e film avec lui. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'une famille, et que cette histoire, cette famille vit, évolue à côté de Calais. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire pour le moment.
On devrait donc, encore une fois, être au cœur de l'actualité quand même, hein, Calais, si vous voyez ce que je veux dire.
Visiblement.
Début du tournage donc fin mai. En attendant, ne ratez pas Isabelle Huppert dans L'avenir de Mia Hansen Love. Ça sort mercredi au cinéma.
Dans un instant, nous parlons de notre soirée télévisée avec Laurent Marsic et surtout l'arrivée du dernier, de la dernière série de l'auteur de Braco, Section Zéro. C'est Olivier Marchal, bien entendu. À tout de suite.
RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Notre soirée télévisée avec vous, Laurent Marsic, et votre choix télé, c'est une nouvelle série qui démarre à 21h sur Canal+. Elle est signée Olivier Marchal, ancien flic, réalisateur de 36 Quai des Orfèvres, MR73 et des séries de séries TV sombres, Flic, Braco. Voici donc Section Zéro, c'est un western d'anticipation.
Alors je préviens tout de suite, hein, faut aimer le sombre et les fictions sans une once de bonheur, d'espoir, de petite joie, grande ou même toute petite. Section Zéro,
y en a pas,
c'est un peu comme si on mettait dans un mixeur beaucoup de Mad Max, quelques BD d'Enki Bilal pour les décors, du western pour les shérifs, du The Shield, tiens aussi, cette série, vous vous souvenez, avec des flics ripoux qui étaient passés aussi sur Canal+, et vous obtenez Section Zéro. On est en 2024, après la presque fin du monde. Ambiance.
Tandis que l'Occident s'enlisait dans une grande guerre sainte au Moyen-Orient, des émeutes de la faim explosèrent dans le monde. Les radiations provoquées par les armes nucléaires entraînèrent des dérèglements climatiques de grande envergure, plongeant la moitié des territoires habités dans le froid et l'autre moitié dans la sécheresse.
Ça, c'est pour le décor. Ils ont tourné en plein hiver en Bulgarie, notamment dans une immense zone industrielle désaffectée. Le froid et la fatigue se voient sur les visages très marqués des comédiens. L'histoire, les États ruinés ont cédé le pouvoir à un conglomérat qui s'appelle Prométhée. Mm-hmm. Les riches habitent dans la ville haute, les classes moyennes dans la ville basse. Le reste, les prostituées, les méchants, les pauvres, les truands, tout ce que les rebuts de la société dans la zone dite des marches. Seuls subsistent de l'ancien temps des flics qui font leur métier.
Alors on retrouve le premier métier d'Olivier Marchal, hein, ancien flic lui-même.
Exactement, d'où le héros Sirius Becker, flic à plein temps, le Elliot Ness de la série, incarné par Ola Rapace. C'est un acteur suédois que vous avez vu dans un James Bond, Skyfall, il faisait un méchant, et dans la série Valander qui avait été diffusée chez nous sur M6 il y a quelques années. Donc Sirius Becker, commandant à la BRCV, la Brigade Répressive des Crimes Violents, tente de faire son boulot, pas drôle et pas heureux.
Qui est-ce qui est le plus sage d'après toi? Celui qui accepte tout? Celui qui a décidé de ne rien accepter?
Il y a un proverbe chez moi qui dit que seule la soumission désarme la colère.
Pourquoi? J'ai l'air en colère?
Tu changes, Sirius. Tu fais peur à beaucoup de monde.
On me paye pour ça.
Alors, il va se retrouver ennemi de Prométhée qui veut contrôler le monde avec les mécas. Ce sont des soldats partiellement robotisés, ils n'ont aucune émotion et font ce qu'on leur dit de faire. La route de Sirius va croiser celle de Checky Cario, qui lui fait partie d'une sorte de société secrète qui veut rétablir la démocratie et donc détruire Prométhée.
Je connais votre engagement. Vous êtes en colère. Nous avons besoin de cette colère.
Et pourquoi maintenant?
Le système est à deux doigts de vous lâcher. Vous le savez, il est temps pour vous de changer de crèmerie, comme on dit. Je vous invite à mettre vos compétences au service d'une organisation digne de ce nom. On l'a baptisée Section Zéro. C'est une unité d'élite ultra secrète dont nous vous proposons le commandement.
Voilà, c'est un peu comme dans Mission Impossible. Il y a plein de personnages secondaires, des acteurs inattendus chez Marchal, comme Pascal Grégory, comédie française, et puis des femmes. L'espoir viendra d'elles. Reste que tout ça est bien sombre. Olivier Marchal le reconnaît. Son explication à lui, c'est ça.
Il y a 100 ans, nos grands-pères se battaient dans les tranchées pour que la France reste un beau pays. Aujourd'hui, la France, c'est un pays de merde, où il fait plus bon vivre, où c'est l'incompétence partout, et l'ultra-violence, du stress, de l'angoisse, et un pays où on n'est pas heureux vivre, s'il ne fait pas bon vivre, quoi. Enfin, voilà, où les enfants, les jeunes s'en vont, les mecs qui ont un peu d'argent veulent s'en aller, et puis où on a peur maintenant. Donc, je suis pas si loin de la réalité, quoi.
Voilà, il répondait à Isabelle Morini-Bosque. On va espérer que cette série restera de la fiction et pas de la prémonition. Budget 16 millions d'euros, 8 fois 52 minutes.
Et ça démarre donc ce soir sur Canal+, à 21h. Nous sommes d'accord ?
Voilà, exactement. Et comme je me dis qu'avec ça, vous allez avoir le moral dans les chaussettes, je vous signale
si je puis me permettre, vous y avez légèrement contribué. La Bulgarie, tout le monde a été malade sur le tournage, le froid.
Donc, je vous signale en un mot le documentaire sur Thierry Leluron à 20h55 sur France 3. Portrait de ce génie caricaturiste des années 70-80, c'était à l'époque déjà de la censure à la télévision et il a bien dépassé les frontières à l'époque, Thierry
Leluron. On guettera ça avec grand plaisir sur France 3 ce soir. C'est une de vos préconisations. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné le dernier roman d'Annie Ernaux, qui est publié bien entendu chez Gallimard. Il s'intitule Mémoire de fille. La question qui vous était posée par Bernard Lehu est: quelle est l'année de l'été que raconte Annie Ernaux dans son roman? Je vais tâcher de ne pas vous donner la réponse tout de suite.
Ah, allez, non,
soyez patients.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
J'ai touché la plage, j'ai pas vu Paris. L'eau sur mon visage, la rouille et le bruit. Je pense à ma mère, la ferme fleurie. Je creuse la terre pour passer la nuit.
Je pense que ça devrait vous rentrer dans les oreilles et même un petit peu plus que ça.
Très jolie voix, l'exclusivité.
Très jolie voix et spectacle Été 44 qui fera partie de cette rentrée de comédie musicale absolument incroyable à partir de septembre, même 9. Fin août. 9 septembre.
9 spectacles,
mais à partir de septembre pour la plupart d'entre eux sur les scènes parisiennes. Merci beaucoup, Steven Bédry. Alors, la question qui était posée à nos auditeurs est: quelle année de l'été, quelle est l'année de l'été que raconte Annie Ernaux dans son roman?
Oui, Mémoire de fille. Gallimard, il y a du best-seller dans l'air. Eh bien, la réponse, c'était 1958, l'été de ses 18 ans.
Voilà, nous avons presque tout dit. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment, ce bon moment avec nous ce matin. Une dernière information, Isabelle Huppert, pardonnez-moi, oui, est bien sur scène au théâtre aussi en ce moment.
Elle est sur scène au théâtre et elle était à l'Odéon aussi. Pour la rentrée, oui.
Voilà, donc on suivra aussi l'actualité théâtrale d'Isabelle Huppert. Merci à toute l'équipe d'avoir passé ce moment avec nous. On est lundi, ça peut vous arriver. On va tout de suite retrouver Julien Courbet.
Vous écoutez RTL.